On va revenir sur les deux villes, Bethphagée et Béthanie, au verset 29. Si vous avez votre carte, je pense qu'elles sont dessus, hein, vous les trouverez à l'est de Jérusalem. Bethphagée, donc qui signifie littéralement la maison des figues, et Béthanie, qui signifie maison de l'affligé. Et Béthanie, c'est assez intéressant parce que c'était un endroit d'arrêt privilégié pour tous les Galiléens qui venaient en pèlerinage à Jérusalem. Donc il y avait probablement du monde à Béthanie. Et ils faisaient cette halte quand ils étaient passés, non pas par la Samarie, justement pour éviter les Samaritains, mais par l'autre côté en longeant la mer Morte et le Jourdain. Donc je pense qu'elles sont sur la carte. Oui. Bon, et puis aujourd'hui encore, c'est super sympa. Ça vaut le coup d'y aller. Pardon? Ouais, elles sont juste à côté. Il y a le versant occidental et oriental du mont. Il n'y a pas Betfagé? Ah, ben si, elle est. Bon, Betfagé, c'est juste à côté, hein. C'est deux versants différents du même mont. Et aujourd'hui encore, là, quand il y a le dimanche des rameaux à Jérusalem, tous les chrétiens se réunissent à Bethphagée. Donc ça veut dire qu'il y a un peu plus d'un millier de personnes qui débarquent à Bethphagée avec des rameaux. Et on avance jusqu'à Sainte-Anne, donc à l'entrée de Jérusalem. Donc c'est assez magique. C'est un peu la démonstration de force des chrétiens qui d'habitude sont toujours hyper discrets, qui ce jour-là sont avec leurs palmes et des micros à chanter dans toutes les langues. Mais c'est hyper sympa, ça vaut le coup. Si vous prévoyez d'y aller, choisissez le dimanche des rameaux, c'est une super sortie. En plus, il y a tous les. Parce qu'il faut traverser une partie du quartier musulman pour aller jusqu'au couvent Sainte-Anne. Et les musulmans sont sur leur balcon à regarder. Ils accompagnent. Il n'y a pas du tout de. Enfin, quand j'y étais, en tout cas, il n'y avait pas d'animosité particulière. En plus, il y avait les scouts et tout. Enfin, bref, c'était très sympa. Et puis, on va regarder aussi les deux citations là, de Jésus. Lorsque Jésus dit ma maison sera une maison de prière et la question de la caverne de bandits. Une fois que Jésus est rentré dans le temple. Donc c'est au verset 45. Ma maison est une maison enfin, sera une maison de prière. Là, c'est le livre d'Isaïe, donc 56, verset 7, où le Seigneur dit lui-même, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Donc Jésus reprend explicitement ce qui a été dit par le Seigneur à travers la bouche du prophète. Et ensuite, quand il fait le lien avec la caverne de bandits, vous en avez fait une caverne de bandits, c'est déjà en fait ce qui était reproché par le prophète Jérémie à ses contemporains. Donc Jérémie chapitre 7 verset 11, est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Donc on voit comment est-ce que Jésus se glisse dans la peau des prophètes en utilisant leurs paroles pour que ce langage soit aussi compréhensible pour ses auditeurs. Ils sont dans le lieu de prière, ils sont dans le lieu où on peut lire justement particulièrement ces écritures et donc les paroles des prophètes. Et donc, il vient avec cette parole-là. Et on a aussi le livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 11, où il est écrit « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Quant à toi, par le sang de ton alliance, je fais sortir tes captifs de la citerne sans eau. Donc, cette prophétie de Zacharie est en train de s'accomplir. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Tout le monde est en train de louer. On peut lire que à mesure que Jésus avançait, les gens étendaient, ce verset 36, leurs manteaux sur le chemin, alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Donc, on voit comment cette prophétie de Zacharie est en train de s'accomplir. Et donc, cette prophétie, elle promet quoi? On l'a dit, elle promet la paix, mais pas uniquement pour le peuple d'Israël, la paix pour toutes les nations. Et elle promet aussi, cette fois-ci, pour ceux qui sont dans l'Alliance, donc pour le peuple élu, qu'ils sortiront de la citerne sans eau, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rentrer dans l'abondance. Donc Jésus arrive à Jérusalem, il est monté sur un ânon, ce qui correspond aussi à la prophétie. Il vient donc accomplir la promesse qu'il fait au peuple élu et l'étendre aux nations, et il est acclamé par toute la foule des disciples. Mais il y a les pharisiens. Les pharisiens, eux, ils ne se laissent pas convaincre. C'est le verset 38. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Et c'est la dernière apparition des pharisiens. À partir de ce verset-là, on ne les verra plus. Au verset 40, hein, Jésus leur répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Et succède à cette réponse de Jésus un changement complet d'atmosphère. C'est-à-dire que là où il y avait une liesse, là où il y a des actions de grâce, d'un seul coup, verset 41, « Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. » Donc à cette liesse qui est quasi générale, succèdent les larmes de Jésus qui annoncent la destruction de Jérusalem. Une destruction qui aura lieu en l'an 70. Et il la présente comme une conséquence de la non-conversion de la ville de Jérusalem. En ne recevant pas Jésus, Jérusalem refuse la paix. Et en fait, Jésus avait déjà dit ça, au chapitre 13, versets 33-35. « Il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. » Et le temple, effectivement, est détruit, en 70. Après avoir mentionné ce temple, c'est le verset 45, Jésus entre dans le temple. Et l'achèvement de tout ce parcours de Bethphagée jusqu'à Jérusalem et le fait que ça se termine au temple, c'est pas un hasard, parce que ça va mettre en avant le discours qui va être ce discours final de l'entrée triomphale à Jérusalem. Et dans ce discours, Jésus va manifester que sa royauté n'a de sens que dans le service qu'il rend au Père. C'est Jésus qui permet l'avènement du règne de Dieu sur terre, et il le rappelle en s'appuyant sur les prophètes. Donc c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur Isaïe et sur Jérémie. Le temple, c'est avant toute autre chose une maison de prière. Et on voit comment est-ce qu'à partir du moment où Jésus fait cette déclaration dans le temple, il y a un écart encore plus important qui se creuse entre les élites qui cherchent la perte de Jésus, mais qui n'osent pas. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier verset. Le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Et donc on est à nouveau, on a l'impression, quand on lit ça, dans les deux voies. Il y a ceux qui ont choisi Jésus, et ils sont suspendus à ses lèvres, et ceux qui l'ont rejeté. Et en fait, on a quasiment l'impression que c'est trop tard pour eux.